ça nous met dans l'ambiance pour parler des repas surgelés, de l'histoire des repas surgelés avec Marcel Dugas. Bonjour Marcel.
Bonjour Hélène, comment allez-vous?
Ça va, merci. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'alimentation, alimentation rapide, les fameux repas congelés qu'on a qu'à faire chauffer, à consommer, qui occupent beaucoup d'espace dans les supermarchés puisque les gens sont pressés.
C'est une très grosse business, nourrir tous ces gens pressés. Je commence avec quelques chiffres, si vous le voulez bien. L'industrie des repas surgelés fait des ventes de 21 milliards de dollars annuellement aux États-Unis et la croissance est constante. Et là, je parle uniquement du mode repas pré-préparé avec différents services, entre guillemets. La pizza surgelée, par exemple, ça, c'est un 7 milliards de dollars additionnel qui n'est pas inclus dans le calcul. Et je pense pas que ça compte non plus toute l'industrie du repas pré-préparé qui nous arrive dans des boîtes par abonnement, tout ça, dans des boîtes réfrigérées. Ça, c'est autre chose. Juste au niveau du surgelé, déjà, c'est une énorme industrie. Une industrie qui n'est pas très ancienne. Son émergence dans les années 1950 a été rendue possible par le développement d'une technologie de congélation qui permettait d'offrir un produit appétissant et par la généralisation des frigos avec congélateur dans les foyers d'Amérique du Nord après la Seconde Guerre mondiale. Parmi les pionniers de la congélation des aliments, mentionnons le nom de Clarence Birdseye. C'est un New-Yorkais. On lui doit plusieurs inventions majeures dans le domaine, même si une bonne partie du crédit devrait revenir aux Inuits du Labrador. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, il avait été envoyé au Labrador dans le cadre de son travail au sein du département d'agriculture des États-Unis et il avait vu les Inuits qui allaient à la pêche par jour de grand froid. Ils laissaient leur prise à l'air libre, ce qui les faisait congeler, et il a remarqué que ce poisson-là, une fois cuit, goûtait nettement meilleur et était beaucoup plus frais que les aliments congelés de l'époque.
Birdseye avait l'œil.
Il avait l'œil, effectivement. Mais le problème de l'industrie alors naissante, c'est qu'on congelait les aliments à une température nettement trop près du point de congélation, ça gelait trop lentement, et l'eau contenue dans les tissus des aliments cristallisait, ce qui donnait une texture et un goût bien loin des produits frais. Et Birdseye a compris qu'il fallait surgeler les produits plutôt que de les congeler. Et non, ce n'est pas la même chose. J'ai toujours pensé que c'était des synonymes, mais ce n'est pas le cas. Surgeler, c'est congeler à des températures très, très basses. Donc, Birdseye, lui, va commencer à surgeler des produits à moins 43 degrés Celsius. Et là, vraiment, on pouvait préserver le goût et la texture de ce qu'on offrait aux consommateurs.
On avait donc la technologie pour faire surgeler les aliments, Marcel, mais corrigez-moi si je me trompe, c'est pas à ce moment-là que vont naître les repas surgelés.
On avait un problème, c'est qu'il fallait transporter et entreposer ces produits-là, et autant les commerçants que les consommateurs n'avaient pas nécessairement de congélateur. D'ailleurs, un autre Américain s'appelait William Maxon, qui a été un des innovateurs du repas surgelé, ne vendait pas au départ ses produits au grand public précisément pour cette raison-là. Ces repas, surgelés en utilisant la technologie développée par Birdseye, il les appelait des « sky plates », c'était des assiettes faites d'une sorte de papier paraffiné, séparé en trois compartiments, où on retrouvait une portion de viande et deux portions de légumes, ou une portion de légumes et du pain. Ils vendaient ça à la marine américaine dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale et à la Pan American Airways, donc la fameuse Pan Am, la compagnie aérienne, et leur vendaient également les réchauds pour les faire cuire. C'était ça son marché. Et Maxon, lui, va décéder en 1947 avant qu'on ait pu réellement offrir les sky plates aux gens qui demeuraient sur la terre ferme.
Vous nous parlez de repas congelés depuis tout à l'heure. Il y a un nom qu'on associe à l'industrie du repas surgelé, c'est la compagnie Swanson et ses fameux TV dinners. Alors, Marcel, dites-nous à quel moment ils arrivent dans le portrait. Mais d'abord, est-ce que vous avez déjà mangé du TV dinner?
J'en ai déjà mangé, absolument, absolument. Mais c'est presque dur à croire que j'ai pu parler de repas surgelés pendant presque 4 minutes sans parler des TV dinners de Swanson. Mais j'y arrive. La compagnie a été fondée par Carl Anton Svanson, un Suédois qui émigre aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et à son décès, ces garçons vont donner une nouvelle impulsion à la compagnie et transformer ce qui était une entreprise régionale en un joueur majeur à l'échelle du continent. On vend d'abord des pâtés au poulet et à la dinde congelée qu'on a qu'à mettre dans le four, mais c'est l'arrivée du TV dinner qui va tout changer. Et l'origine exacte du dîner Swanson, comme on le disait en français, fait polémique. Il y a un ancien employé de la compagnie nommé Jerry Thomas qui a raconté qu'il avait eu l'idée après que Swanson, alors que Swanson avait 260 tonnes de dinde congelée invendues après la Thanksgiving américaine. Et il s'est dit, pourquoi ne pas écouler toute cette dinde-là en vendant des repas individuels de dinde avec la farce et les patates douces dans des barquettes d'aluminium prêts en 25 minutes au four à 425 degrés. Cette version-là ne fait pas l'unanimité, mais une chose est certaine. Peu importe qui au sein de l'entreprise a eu cette idée-là, comment, on n'a pas innové. On a seulement repris ce que d'autres compagnies, comme la compagnie de William Maxon, faisaient à plus petite échelle. La seule vraie innovation de Swanson, c'était au niveau du marketing. Et ça, il semble bien que c'est notre Jerry Thomas de tout à l'heure qui a eu l'idée d'appeler les repas surgelés Swanson des TV dinners, et c'était franchement brillant. C'est l'après-guerre, la prospérité retrouvée après deux guerres mondiales et une crise économique. Et dans le monde d'autrefois, tout demandait un effort, y compris se divertir. Aller dans les clubs, aller au théâtre, assister à des événements sportifs, inviter des gens chez soi pour le bridge, tout ça, ça demande une dépense d'énergie. Mais là, arrive la télé, on n'a plus besoin de sortir, on n'a plus besoin de s'habiller, de parler à qui que ce soit. Le divertissement vient à nous d'une manière qu'on ne connaissait pas auparavant.
On devient des patates de sofa.
C'est exactement ce qui est arrivé, parce qu'aux États-Unis, 9% des foyers avaient la télé en 1950. On était à 87% 10 ans plus tard, donc c'est une popularité, une augmentation tout à fait fulgurante. Et c'est à peu près la même chose au Québec, d'ailleurs. On a 89% de pénétration de la télévision dans nos foyers en 1960. C'était donc un coup de maître que d'associer les plats préparés de Swanson, qui était une sorte de révolution culinaire, à cette autre révolution qui était la télévision. Parce que le repas surgelé versus le repas traditionnel, c'est un peu la même chose que de s'écraser devant la télé versus aller au théâtre. Jusque-là, quand on préparait à manger, il fallait tout faire de A à Z, y compris la vaisselle après. Et pour la reine du foyer, ça représentait des heures et des heures de travail semaine après semaine.
Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça, la reine du foyer.
Ah, bien, dans les années 50, c'était comme ça que ça s'appelait. Remarquez, il y avait des solutions pour aller plus vite et pour moins travailler qui existaient à ce moment-là. Je vous donne un exemple, les pâtes alimentaires à cuire ou déjà cuites en conserve avec la sauce, tout ça, on en trouvait dans le commerce déjà depuis des décennies à ce moment-là. Mais le modèle accepté de préparation des repas, ça demeurait madame qui s'échinait à la cuisine pour tout préparer. Le TV dinner, c'est autre chose. On n'a même plus besoin d'enfiler un tablier. On sort de la boîte, on met ça dans le fourneau. Le tour est joué. Entre les mères de famille, qui étaient à ce moment-là de plus en plus nombreuses à travailler à l'extérieur, et les gens célibataires, faut pas les oublier, la popularité du repas surgelé va exploser. Les dîners Swanson sont lancés en 1953 et dès l'année suivante, on en a vendu 10 millions aux États-Unis. La marque TV Dinner, un peu comme un frigidaire ou un Kleenex, va entrer dans le lexique en tant que nom commun. Et c'est en 1960 qu'on passe de 3 à 4 cases dans les barquettes en ajoutant le fameux dessert. Et c'est là qu'arrive mon expérience personnelle avec les dîners Swanson. Je ne sais pas pour vous, mais c'était un brownie ou une croustade aux pommes très souvent, et on avait toujours invariablement des petits pois ou des grains de maïs qui s'étaient échappés de leur compartiment, qui se retrouvaient dans le dessert. Je pense que ça fait partie de l'expérience de manger des TV dinners.
Des petits pois dans le brownie, que c'est bon. Alors, il n'y a pas que Swanson dans le créneau du repas surgelé, il y a d'autres compagnies qui vont y voir une occasion d'affaires.
Bien, quand on a constaté à quel point c'était payant, ça va de soi que d'autres ont voulu avoir leur part du gâteau, comme Stouffer's, par exemple, qui est devenu un joueur important de ce créneau, qui l'est encore. Au départ, c'était une chaîne de restaurants de l'Ohio qui a ouvert des kiosques où on vendait des portions congelées des plats qu'on servait. En 1954, donc l'année de l'explosion de popularité des TV dinners, on décide d'ouvrir une première usine de produits surgelés. Là, on a vraiment donné de l'expansion à notre produit. L'entreprise a été rachetée par le géant suisse Nestlé dans les années 1970. Et un autre nom célèbre dans les congélateurs de nos supermarchés, mais l'italo-américain Gino Paolucci, dans les années 1980, il a mis en marché une gamme de produits surgelés, les Michelinas, qui était inspiré des recettes de sa mère, venue d'Italie dans les années 1910, qui s'appelait, justement, Michelina. Et je pourrais vous en nommer d'autres, mais je vais juste terminer en mentionnant un autre leg du TV dinner dans les années 1950. Il a aidé à décloisonner l'idée qu'on se faisait du souper. Soudainement, c'était plus nécessaire de souper toute la famille assise en rond autour de la table de la cuisine. On pouvait manger sur des tables pliantes individuelles au salon, devant la télé, pour être sûr de ne pas manquer une seconde de nos programmes. Et en plus, avec le TV dinner, ben, le repas arrivait tout d'un bloc, pas besoin d'incessants allers-retours jusqu'à la cuisinière. Tout était dans la barquette. On disait, le marketing de Swanson, qu'il n'y avait rien de plus moderne que le TV dinner. Ben, ça représentait vraiment le modernisme dans tout ce qu'il a de bon et dans ce qu'il a de moins bon également.
Alors, c'était vraiment appétissant, cette chronique qui nous rappelait des souvenirs, malgré que j'ai jamais goûté à ce genre de repas. Ben, je ne vais pas faire ma snob, là, mais TV dinner, mais je me souviens des tables de télévision là, qu'on installait le dimanche, oui. Et on faisait venir du poulet ou de la pizza. Ça, c'était toujours la fête.
OK, ben c'est une façon aussi de justement pas forcer la reine du foyer à s'échiner devant le fourneau pendant des heures.
Oui, donner une pause à la reine du foyer une
voilà,
fois de temps
en
temps.
Elle en avait grandement besoin,
probablement. Merci beaucoup, Marcel. On se retrouve dans 2 semaines. Portez-vous bien.
Vous aussi.